Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. C'est une activité qui ne coûte rien, sauf un peu de temps et une bonne paire de chaussures. Une expérience simple et à la fois totale, comme l'écrit justement l'historien Antoine Debecq. La marche, un jeu d'enfant, mettre un pied devant l'autre. Une activité qui met le corps et l'esprit en action. Une activité que nous exécutons sans y penser, mais qui permet de faire émerger mille et une pensées, des plus anodines aux plus géniales. Une activité physique aux bienfaits prouvés par la recherche scientifique et médicale. L'Organisation mondiale de la santé recommande de pratiquer au moins 30 minutes par jour et mieux 10 000 pas quotidiens si vous êtes muni d'un diabolique podomètre qui pousse à marcher toujours plus selon certaines études. Nous verrons ce que soigne la marche, pourquoi elle est bénéfique pour notre esprit et quelle est la meilleure façon de marcher. Pour nous éclairer, le philosophe Roger Paul Droit et l'ostéopathe Jacques-Alain Lachant. Mes complices aujourd'hui, Christophe André et Julia Zimmerlich du mensuel Ça m'intéresse. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rébéi.
Où êtes-vous allée en voyage de noces, Hélène ?
Je suis allée à Paris. J'ai fait 4 ans de français à l'université.
Paris a dû beaucoup vous plaire. On y marche tout le temps.
Je ne comprends pas.
Oh, je dis ça parce que je vous ai vue plusieurs fois dans le quartier à pied.
Moi aussi, je vous ai vue en passant en voiture. Je vous ai fait signe. Vous allez où quand vous marchez comme ça ?
Nulle part. C'est un plaisir de marcher.
Bien sûr. Mais vers où ?
Je n'ai pas de destination. Ça me détend de marcher, ça me fait du bien. J'ai entendu à la radio qu'Einstein le faisait tout le temps.
Einstein ? Qu'est-ce qu'il ne fait pas, celui-là ?
Un extrait de la série américaine Mad Men, avec nous pour évoquer les bienfaits de la marche. Roger Paul Droit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, chroniqueur au Monde, et vous publiez chez Paul Sen « Comment marchent les philosophes ?» Il s'agit de 27 récits autour de la marche, des promenades qui dessinent une petite histoire de la philosophie. Bonjour Jacques-Alain Lachant.
Bonjour.
Vous êtes ostéopathe, responsable de la consultation marche à la clinique Montlouis à Paris, et vous avez notamment publié en poche chez Payot « La marche qui soigne » et « Bien marcher, ça s'apprend » chez le même éditeur. Bonjour Julia Zimmerlich.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au mensuel Ça m'intéresse. Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, grand marcheur. Nous évoquerons notamment avec vous les liens entre la méditation et la marche. Et on retrouve évidemment dans quelques minutes votre chronique. Chose vue. Marcher, me dit mon vieil ami le Robert, c'est se déplacer par mouvement et appui successif des jambes et des pieds sans interrompre le contact avec le sol. Synonyme, flâner, cheminer, se promener, déambuler. Arpenté. Julia Zimmerlich, en 2012, l'Organisation mondiale de la santé a répertorié et validé toute une série de bienfaits de la marche à pied.
Oui, c'est assez fascinant. En fait, en faisant ce dossier, j'ai découvert que la marche pouvait vraiment nous procurer énormément de bien-être. Donc, en pagaille comme ça, la probabilité d'avoir un cancer du sein peut être réduite de 30%. Une activité régulière nous permet aussi de réduire le risque d'infarctus de 30%. On a un risque aussi diminué de 24% d'AVC.
Accident vasculaire cérébral.
Oui, excusez-moi, effectivement. Il y a aussi le risque de fracture du fémur, qui est largement diminué de 41%. Mmh. Donc, on se rend bien compte que la marche nous est vraiment bénéfique.
Le point de vue du médecin Christophe André, docteur Christophe André, sur les bienfaits physiques de la marche à pied.
Moi, je me réjouis de l'avalanche d'études. Depuis une dizaine d'années, on a vraiment un très grand nombre d'études scientifiques, la plupart assez bien conduites, réhabilitant ce truc qui ne coûte rien, effectivement, qui est accessible la plupart des gens et qui nous fait un bien fou.
Alors, on peut évoquer les bienfaits de la marche, par exemple, sur l'attention, sur la mémoire, parce que la marche permet une meilleure irrigation du cerveau, ce qui favorise la libération d'une hormone qui active la production de nouveaux neurones, notamment dans l'hippocampe.
Oui, ce qu'on appelle la neurogénèse, c'est merveilleux, moi, je trouve. Chaque fois qu'on s'aperçoit qu'une activité très simple, manger des fruits et des légumes, marcher, s'exposer au soleil, entraîne une cascade de conséquences bénéfiques sur le corps et aussi sur l'esprit, parce qu'il y a cette dimension également.
À propos d'esprit, Roger Paul Droit, vous avez déclaré chez nos confrères de France Info, « Moi, président, j'inciterai tous les Français à faire une heure de marche par jour ».
Oui, bien sûr, parce que non seulement il y a des objectifs de santé, de réduction des frais médicaux. Si tout le monde marchait une heure par jour, pas évidemment contraint et forcé, mais tous ceux qui
avec
peuvent
joie
et le veulent, et moins de voitures, plus de déplacements à pied, toutes ces recettes extrêmement simples, je crois, nous changeraient non seulement beaucoup de choses dans nos vies individuelles et dans la société, mais aussi dans nos têtes. parce qu'il y a, je crois, un point commun, je reviendrai peut-être tout à l'heure, mais une connexion profonde entre la marche humaine et la pensée humaine. Je crois que d'une certaine manière, nous pensons comme nous marchons.
Alors, quels sont les liens pas forcément évidents au premier coup d'œil entre la marche et la philosophie ?
Alors oui, au premier regard, c'est pas évident. Il y a des tas de philosophes qui marchent. Ceux de l'Antiquité, il y a Montaigne, Rousseau,
Kant.
Nietzsche, Kant. Enfin, on connaît des philosophes promeneurs. Mais on pourrait se dire, après tout, il y en a qui aiment ça, qui en ont besoin pour avoir des idées. Et puis d'autres qui sont cul de plomb, comme disait Nietzsche, qui restent assis, qui sont mieux à leur bureau ou à la bibliothèque. Et si c'est juste une affaire de goût, avec certains qui marchent, d'autres pas, je crois qu'on n'a pas le vrai lien, on n'a pas cette connexion. Et je me suis aperçu qu'il fallait en fait se demander comment se déroule la marche humaine. C'est une singularité de notre espèce. Nous sommes les seuls, parmi toutes les espèces animales, à pratiquer une bipédie systématique. Et ça a changé des tas de choses, évidemment, dans notre organisme, dans notre cerveau, dans nos capacités de penser et tout. Mais si on regarde comment ça se passe, et c'est là le rapport avec la philosophie qu'on peut faire, comment ça se passe, c'est que nous marchons par déséquilibre. Nous marchons en commençant une petite chute, en la rattrapant, en la reproduisant. C'est-à-dire, il faut d'une certaine manière toujours se faire un tout petit peu tomber et puis s'en empêcher et recommencer pour avancer. Et dans la pensée, c'est la même chose. Il faut se déstabiliser, il faut se déséquilibrer, il faut sortir des évidences. Et ça fait une sorte de structure commune, si vous voulez. Je ne dis pas qu'en marchant, on fait forcément de la philosophie. Je ne dis pas non plus que si on fait de la philosophie, on marche inévitablement. Je dis que la démarche, si j'ose dire, la structure, le processus est le même.
Jacques-Alain Lachand, je rappelle que vous êtes ostéopathe. Contrairement à ce que l'on croit, rien n'est moins simple que de marcher. Tout le monde ne sait pas forcément mettre un pied devant l'autre et porter sa propre verticalité.
Pour prolonger ce que disait Roger Paul-Droit, il est vrai que marcher ne va pas de soi. C'est-à-dire que quand on observe nos contemporains en déplacement, dans la rue, en vacances ou dans la ville, on s'aperçoit que les motricités varient considérablement d'une personne à l'autre. Et bon nombre de nos contemporains marchent, par exemple, avec des boiteries qu'ils ne ressentent pas. Bon nombre d'entre eux marchent avec la tête basse, la tête penchée en avant.
Sur leur smartphone.
Sur leur smartphone, ça s'aggrave. Et bon nombre de gens n'ont absolument aucune verticalité de marche, ni de ballon des bras. Alors effectivement, quand on parlait d'harmonie de la pensée, d'harmonisation des idées, cela ne peut se faire qu'à la condition que la marche soit extrêmement légère et qu'il y ait une motricité d'un genre particulier pour que ça puisse se faire. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la tête penché en avant, les yeux fixés au sol, rivés au sol, n'est absolument pas présent à l'espace. Il est guère présent lui-même, il est dans une forme de rumination et il est branché sur un pilote automatique. Donc là, la marche est complètement déréglée. Alors, on en parle du point de vue de la pensée, on peut en parler du point de vue de la créativité, l'émergence des idées, les bonnes idées. Moi, je dirais que j'ai deux champs d'exploration et d'observation. C'est d'un côté les maladies musculo-squelettiques et de l'autre côté, la présence à soi-même, effectivement.
On y reviendra largement tout à l'heure. Autour de la table, quel marcheur êtes-vous ? Roger Paul-Droit, pas sûr que nous marchions ensemble, car contrairement à vous, j'aime marcher vite.
Oui, moi, je marche très lentement, depuis toujours. Je suis assez perdu quand quelqu'un marche vite. J'ai l'impression qu'il y a des gens rapides comme ça. Marchant lentement, je marche longtemps.
Vous savez.
Certes, mais voilà, je pense qu'il faut...
Christophe André, quel marcheur êtes-vous ?
Alors moi, tout, ça dépend avec qui je suis. Je peux marcher lentement, je peux marcher vite, je peux marcher avec des bâtons, je peux trottiner. Tout me réjouit dans la marche.
Jacques-Alain Lachand.
Moi, je pratique tout type de marche, effectivement, à des vitesses variables, mais j'évite de suivre la vitesse de mon voisin.
Julia Zimmerlich, vous vous êtes mis à marcher en préparant ce dossier de Ça m'intéresse.
Alors moi, j'ai été biberonnée à la randonnée. Voilà. J'ai plutôt été dégoûtée en fait, de la marche. Et c'est vrai qu'en faisant toutes ces interviews, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je m'y remette.
Allez, il est temps de retrouver Les choses vues de Christophe André, évidemment très inspiré par notre sujet du jour.
France Inter.
Dégoûtée. Médecin, psychiatre.
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute ?
Chose vue.
Christophe André, notre sujet sur les bienfaits de la marche, c'est du pain béni hein, pour vous.
Hein. Ah ouais, ça me donne envie de me lever, de marcher dans le studio, de faire le tour de la table en criant dans le micro. Moi, j'adore marcher, effectivement, tout le temps. Je suis comme un chien. Vous savez, ces chiens qui sont toujours prêts pour une balade avec leur maître. Dès que celui-ci commence à prendre son manteau ou ses souliers, il se précipite vers la porte en remuant la queue, impatient de l'accompagner. Prononcer les mots « petite promenade devant moi » et me voilà déjà debout, chaussé et équipé. Je connais effectivement toutes les études scientifiques sur de la marche à propos des bénéfices sur le corps et sur l'esprit. C'est simple, il n'y a que des avantages à marcher. Et parfois, on trouve même dans ces études des choses bizarres. Par exemple, on a montré que lorsque les gens se font trop de soucis en marchant, ils balancent moins les bras, surtout le bras droit, etc. etc. Tout ça m'amuse et me passionne énormément. Et puis, il y a encore une chose à mettre au crédit de la marche. Il se passe toujours plus de choses quand on sort de chez soi pour se balader que si on reste enfermé.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Eh oui, en marchant, on fait parfois des rencontres. Mais en vérité, la marche la plus féconde, à mon avis, c'est peut-être la marche dans la solitude et dans la nature. La marche sans but, la marche autotélique. Une activité autotélique, c'est une activité que l'on accomplit pour elle-même, sans poursuivre aucun objectif. On ne marche pas pour aller au travail, pour aller acheter sa baguette de pain. On marche pour le plaisir de marcher, de faire bouger son corps. Rien de mieux pour nettoyer son esprit, le débarrasser de toutes les poussières, les scories de nos préoccupations et autres rumination. La marche élague nos pensées trop lourdes, elle tarit les bavardages de notre esprit, elle fait descendre notre attention dans notre corps, dans sa sensorialité, dans le rythme de nos pas, le mouvement de notre souffle qui s'ajuste peu à peu à nos efforts. Une sorte de silence habité se fait à notre esprit, puis peu à peu, une fois le rythme pris, des changements émergent dans notre cerveau. Toutes les études montrent par exemple que la marche induit des ressentis émotionnels agréables, sans doute parce qu'elle est liée dans l'évolution de notre espèce à la recherche de choses agréables et gratifiantes, la nourriture, du repos, des partenaires. Et puis, marcher rend sans doute plus sage, d'où les philosophes péripatéticiens que connaît bien sans doute Roger Paul Droit. Péripatéticien, ça vient du grec péripatétikos, qui aime se promener. Aristote fut, dit-on, le chef de file de cette école, où l'on appréciait beaucoup de réfléchir en déambulant et en discutant. Car la marche, d'autres études l'ont prouvé, a aussi des vertus pour faciliter la créativité, la concentration, la neurogénèse que vous évoquiez tout à l'heure. Quand on marche droit, on ne peut pas penser en rond. C'est super la marche. On peut aussi, évidemment, courir, nager, pédaler, mais marcher, c'est plus beau. Ça permet tout. La lenteur, la contemplation, la méditation, la réflexion, l'apaisement du corps et de l'esprit. Et vous, Ali, qui êtes un petit jeune, pour vous faire du bien, vous préférez marcher ou courir ?
À marcher, très largement. Entre 15 et 30 000 pas par jour.
Ah oui, avec votre podomètre,
voilà, exactement.
Vous mesurez tout ça.
Le regard de Roger Paul Droit, le philosophe Roger Paul Droit.
Bah, ce que vient de dire Christophe André me fait penser au fait que les hommes de l'Antiquité marchaient effectivement beaucoup plus que nous. C'était quelque chose d'un dans leurs déplacements, dans leur manière de voyager même aussi, et dans leur vie quotidienne. Et il y a quelque chose qui m'a frappé en travaillant à ce livre « Comment marchent les philosophes ». J'ai appris, parce que ça je l'ignorais, que c'est Sénèque qui dit ça, et d'autres latins, que les Romains pensaient à leurs amis en pensant à leur manière de marcher. Non seulement ils savaient distinguer à peu près le lieu d'où venait quelqu'un à sa manière de marcher, sa profession, son milieu social, des choses comme ça. Mais penser à un ami disparu, pour nous, ça veut dire penser à son visage, à ses expressions, à ses manières de manger, par exemple. Mais eux avait la démarche comme un trait absolument distinctif de la personne. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'a particulièrement intéressé.
Les choses vues de Christophe André, c'est dans Grand Bien vous fasse, une émission préparée par Alexa Rivière et Lorraine Bess, avec l'aide de Clara Marlioux, et c'est réalisé par Jérôme Boulet. On s'intéresse aujourd'hui aux bienfaits de la marche avec le philosophe Roger Paul Droit, l'ostéopathe Jacques-Alain Lachant, et avec mes complices aujourd'hui Christophe André et la journaliste de Ça m'intéresse, Julia Zimmerlich.
Me. Something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
Et on vient d'écouter ce titre mythique de Nancy Sinatra.
Les enfants, prêt pour la marche?
Oui!
Grand bien vous fasse!
Un kilomètre à pied, ça use, ça use! Un kilomètre à pied, ça use les souliers!
Allez!
Sur France Inter.
On s'intéresse aux bienfaits de la marche avec le philosophe Roger Paul Droit, l'ostéopathe Jacques-Alain Lachant et la journaliste Julia Zimmerlich, et avec la complicité de notre psy maison Christophe André. Est-ce que vous marchez en écoutant de la musique, tiens, autour de la table, Roger Paul Droit?
Non, la musique, c'est pour moi, c'est chez moi ou dans le train ou dans les transports, mais pas en marchant.
Jacques-Alain Lachant?
Je danse en musique, je ne marche pas en musique.
Et vous, Christophe André?
Non, je trouve que c'est du gâchis. Alors, sauf si vraiment on est dans des environnements où il y a des bruits très désagréables, mais globalement, quand on marche, on se rend présent au monde, donc on ne s'isole pas.
Et vous, Julia Zimmerlich?
Pareillement, moi je n'écoute pas la musique parce que ça me coupe complètement de l'environnement.
Et de vos sensations, peut-être.
Exactement.
Bonjour Marietta.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Caluire.
C'est ça.
Alors, que vous inspire notre sujet du jour consacré aux bienfaits de la marche? Quel bienfait vous procure la marche d'ailleurs?
Bah écoutez, moi ça me libère, la marche ça me permet de me libérer, ça me permet de voyager, parce que ce que je disais à la standardiste qui m'a pris en ligne, je disais que la marche, en marchant, bah je découvre plein de choses, j'habite à Caluire et Cuire. Ben, je découvre plein de chemins, je découvre plein de choses, je me dis ben tiens, j'habite là, mais j'ai pas tout vu.
Et ça vous libère de quoi, Marietta?
Ça me libère de mes problèmes. Ça me libère aussi, par exemple, quand j'ai des examens à passer, au lieu de prendre les transports en commun, je me lève un peu plus tôt et je me rends à mes centres d'examen en marchant. Et du coup, je suis plus productive. Donc tout ce que j'avais révisé la veille et tout, ben ça ressort comme ça. Pas besoin de réfléchir, ben avec la marche, il y a tout qui est rentré. Hein.
Jacques-Alain Lachant.
Oui, à l'évidence, cette personne nous explique que quand elle marche, finalement elle se déstresse par elle-même. Et en même temps, toutes les idées productives, créatives, émergent dans son esprit. Hein, donc, la marche a cette fonction. Hein, verticalité a cette fonction.
Roger Paul-Droit.
Comme si se rendre à l'examen à pied permettait ensuite, une fois assis devant sa copie et en passant l'examen, de marcher dans les idées et de continuer finalement à avancer autrement, et qu'il y avait une continuité, pas simplement un échauffement, mais d'une certaine manière un parallèle, quoi.
Théo nous dit par courriel, je vis à Paris, j'ai toujours adoré marcher dans les rues et me balader. Je suis entré en septembre, en première année de médecine, et je n'ai plus le temps de prendre le temps de marcher. Et c'est maintenant que je me rends compte des vertus de la marche, autant physique que psychologique. Merci beaucoup Marietta de nous avoir appelé de Caluire. Roger Paul-Droit, vous le disiez tout à l'heure, le propre de l'homme, c'est avant tout d'être un animal debout, un animal qui marche sur ses deux jambes. Marcher, c'est une action apparemment très banale, et qui reste pourtant énigmatique.
Oui, elle est énigmatique dans son origine, et puis même dans son dispositif, c'est-à-dire que finalement, la marche humaine, je pense que l'ostéopathe doit pouvoir le confirmer ou le dire à sa manière, mais elle est étrange dans son développement. Elle est faite justement toujours de ce déséquilibre permanent. Il y a des ça a été découvert déjà au XVIIIe siècle par le chevalier de Jaucourt dans l'Encyclopédie. Ça a été même Aristote déjà fait des différences entre la marche bipède des oiseaux et puis celle des humains. Et puis il y a des scientifiques américains comme Napier dans les années 60 qui ont étudié cette étrangeté de la marche. C'est pas très économique, si vous voulez, la marche d'une certaine manière. Et en même temps, c'est le modèle, à mes yeux, c'est la matrice humaine du rapport au monde, finalement.
Et John Napier qui disait « La façon humaine de marcher est une activité à nul autre pareil, au cours de laquelle le corps à chaque pas frôle la catastrophe. La déambulation du bipède humain a des allures de catastrophe potentielle. » Jacques-Alain Lachant.
Et ben moi, précisément, je m'occupe des catastrophes. C'est-à-dire des patients qui se retrouvent avec des boiteries qu'ils ne sentent pas, avec, comme on le disait, un bassin en arrière, une marche qui est trop talonnante, et toutes ces personnes, dans cette déambulation ordinaire, dans cette motricité quotidienne, se créent des vraies pathologies ostéo-articulaires, sans les sentir, jour après jour, mois après mois, année après année.
Roger Paul-Droit, vous aimez prendre un peu de hauteur, vous installez au balcon ou à la fenêtre d'un immeuble, au quatrième ou cinquième étage, et vous aimez observer le balai humain.
Oui, je veux dire que si... Alors, c'est comme ça qu'on peut commencer à regarder. Il faut pas être trop haut, parce que si vous êtes au 30e étage, vous verrez pas les gens marcher. Si vous êtes au premier, vous serez presque un peu trop près. Vous mettez sur un balcon et vous regardez les gens qui passent dans la rue. Et vous disiez tout à l'heure, ils ont chacun leur manière de déambuler. C'est vrai que il y en a qui sont un peu entravés, soit par leur poids, soit par leur motricité, d'autres qui avancent de façon fluide, mais ils ont tous... finalement en commun, cette étrange façon de mettre une jambe devant l'autre, puis de passer la suivante, de rattraper ou non avec le mouvement des bras. Et cette manière de déambuler, quand on la regarde comme ça du haut, Descartes aussi faisait ça en disant c'est pas des chapeaux qui passent dans la rue, ni des manteaux, il voyait bien que c'est des êtres humains, mais il le voit, je crois, à la particularité de la motricité. Et curieusement d'ailleurs, les robots aujourd'hui, qui commencent à faire énormément de choses fort proches des nôtres, ont bien du mal à marcher de façon fluide. Et une des choses les plus difficiles à faire pour une machine, c'est d'imiter cette marche humaine.
Qu'est-ce que ça a apporté à l'homme de marcher debout? Ça a contribué à développer son cerveau en libérant ses bras, pour le dire vite et de façon très schématique?
Oui, bien sûr, ça libère le cerveau, ça permet finalement la naissance du langage, de la pensée, ça libère les mains, donc ça permet permet le travail et ça permet la colonisation, ou en tout cas, colonisation est un mauvais mot, conquête est un mauvais mot, l'habitat humain sur toute la Terre. Vous savez qu'il y a 2-3 foyers d'apparition de l'espèce, et en même temps, si aujourd'hui il y a des êtres humains partout dans le monde sous tous les climats, c'est bien parce qu'ils sont allés jusque-là à pied.
Roger Paul Droit, il existe des tas d'expressions qui relient la pensée et la marche. On parle de démonstration pape ou de la marche d'un raisonnement. Et puis n'oublions pas que le mot excursion signifie d'abord digression dans le discours.
Oui, alors je crois que toutes ces expressions, et il y en a beaucoup, la marche de l'histoire, la marche d'une idée, la marche d'une démonstration, ne sont pas simplement, comme on pourrait le croire, des métaphores. C'est pas juste des comparaisons. Il me semble, et c'est ce que j'essaye de soutenir dans ce livre, il me semble que lorsque l'on réfléchit, eh bien, on marche dans sa tête, on avance pas à pas, Descartes, à tous les endroits clés du discours de la méthode, prend des métaphores de la marche. Et si vous regardez, et c'est ça qui m'a intéressé, comment un philosophe pas du tout marcheur, Hegel, on le voit toujours assis à son bureau, toujours debout en train de faire cours. Je crois qu'il a marché 4 jours dans sa vie pour aller dans les Alpes bernoises. Il s'est ennuyé comme tout. Enfin bref, c'est pas un marcheur du tout, du tout. Et pourtant, qu'est-ce qu'il invente ? La dialectique. Et la marche de l'histoire, la marche de l'esprit. Autrement dit, c'est probablement le penseur du mouvement humain des civilisations, de l'histoire et des événements, le plus aigu, alors qu'il a été immobile. Ça veut dire qu'on marche aussi en pensant.
Jacques-Alain Lachant, pourquoi la marche réveille-t-elle la créativité ? C'est Jean-Jacques Rousseau qui écrivait dans ses Confessions « La marche a quelque chose qui anime et avive les idées. Je ne puis presque penser quand je reste en place. Il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon esprit. »
La créativité, elle vient du corps. Elle vient du corps, elle vient pas du cerveau. Donc, pour peu qu'on mette ce corps en animation, en mouvement, à ce moment-là, les métaphores se créent, l'imagination s'ouvre, et de fait, les bonnes idées, comme on dit, la potentialité créative émerge, hein, ce qui n'arrive pas, effectivement, ainsi.
Julia Zimmerlich.
Oui, il y a des chercheurs de l'université de Stanford qui ont confirmé en fait ces intuitions qu'on peut avoir tous. Ils ont demandé à 200 participants en fait d'imaginer en moins de 4 minutes une autre utilisation d'un objet courant. Et en fait, on s'est rendu compte que les marcheurs, ceux qui avaient marché sur un tapis roulant pendant une dizaine de minutes, avaient 60% d'idées en plus que ceux qui étaient restés assis. Et après, voilà, c'est là où je travaille. On a pu échanger là-dessus. On s'est rendu compte que oui, effectivement, quand on bloque sur un problème, il suffit d'aller faire un tour pendant 10 minutes dans le quartier et ça redémarre.
Christophe André.
Oui. Une autre explication, c'est que la marche nettoie notre cervelle. C'est-à-dire, elle fait un petit peu le ménage par rapport à toutes les scories, les espèces de préoccupations, de ruminations triviales. Elle permet à cette fonction d'imagination, de créativité, d'émerger, puisque, au fond, il y a eu une sorte de décantation de tout ce bavardage de l'esprit un peu stérile. Puis il y a autre chose qui m'intéressait dans ce que disait Roger Paul Droit sur les rapports entre la marche et la pensée. C'est vrai que nous, en psychiatrie, en psychothérapie, on est confrontés souvent à ce qu'on appelle des ruminations, c'est-à-dire des sortes de pensées circulaires, stériles, où les gens tournent en rond, et on dit bien tourner en rond. Au fond, ça n'avance pas, ça les fait souffrir. Et on a montré que ces ruminations, des meilleurs moyens de cesser de ruminer, c'est de sortir et de marcher.
Roger Paul Droit.
Avant Stanford et Christophe André, il y avait Nietzsche. Dans Ecce Homo, il dit exactement ceci. Ne prêtez foi à aucune pensée qui n'ait été composée au grand air dans le libre mouvement du corps, à aucune idée où les muscles n'aient été eux aussi de la fête.
On va méditer cette phrase de Nietzsche, Roger Paul Droit, en marchant, par exemple. Pierre, bonjour, vous appelez de Bordeaux.
Oui, bonjour.
Que faites-vous tous les matins à Bordeaux ? Bonjour.
En beau temps à Bordeaux, nous sommes sur les quais, là nous venons de terminer notre marche.
Alors, que vous apportent ces marches hebdomadaires collectives ?
Ces marches hebdomadaires ont été inspirées par l'écoute attentive de Christophe André, qui est un de nos gourous au Social Club de Bordeaux.
Oula, gourou !
Dans la méditation et dans la pleine conscience.
Et donc, oui, vous disiez, pardon, Pierre.
Oui, ces marches inspirées par Christophe André nous apportent une très bonne nourriture spirituelle pour l'esprit et corporelle pour le corps, pour notre équilibre, pour notre pour notre créativité, pour notre bien-être.
Christophe André, marcher en s'attardant sur le moment présent, c'est une manière de méditer, en reliant nos cinq sens à tout ce qui nous entoure, ici et maintenant?
Oui, oui, oui. Merci beaucoup à Pierre. Je suis très touché de les accompagner dans le Social Club, là, comment ça s'appelle, de Bordeaux, vous accompagner tous les mardis, tous les jeudis. Et oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la méditation peut accompagner certaines de nos activités. Qu'il y a lorsqu'on vous forme, lorsqu'on vous apprend la méditation, il y a ce qu'on appelle la marche méditative, où on prend conscience de la manière dont nous marchons. Et c'est là qu'on retrouve ce que décrivait notamment Jacques-Alain Lachaud, mais aussi Roger Paul Droit. On s'aperçoit que c'est un miracle, la marche. Que quand on se met à marcher très lentement, en pleine conscience, on perçoit parfaitement ce moment où on perd l'équilibre et où naturellement l'autre jambe toute seule trouve le bon chemin pour rétablir cet équilibre. Et c'est à la fois extrêmement apaisant et extrêmement fécond pour la conscience du fonctionnement de notre corps.
Allez, dans un instant, nous vous dirons quelle est la meilleure façon de marcher. Merci hein, Pierre, de nous avoir appelé de Bordeaux. On s'intéresse aujourd'hui aux bienfaits de la marche avec le philosophe Roger Paul Droit, l'ostéopathe Jacques-Alain Lachant et avec mes complices aujourd'hui Christophe André et la journaliste de Ça m'intéresse, Julia Zimmerlich.
Je connais tous. sens.
Et on vient d'écouter Tous Assemble, interprété par Jojoa et Lieutenant Nicholson.
Alors toi aussi, tu te fais trimballer en voiture. Il n'y a plus que moi qui marche à pied en cette histoire.
Grand bien vous fasse.
Sans voiture, vous êtes comme un orphelin.
Ouais, c'est ça, un orphelin à pied.
Sur France Inter.
On s'intéresse aux bienfaits de la marche en compagnie du philosophe Roger Paul-Droit, de l'ostéopathe Jacques-Alain Lachan et de la journaliste Julia Zimmerlich et avec la complicité de notre psy maison Christophe André. Alors Roger Paul-Droit, pour le philosophe danois Kierkegaard, qui a notamment écrit le traité du désespoir, la marche contribue à une bonne hygiène. Et il écrit à sa sœur Yette: ne perdez surtout pas l'envie de marcher. Moi-même, chaque jour, la marche me procure mon bien-être quotidien et m'éloigne de la maladie. Mes meilleures pensées sont venues en marchant.
Oui, et je crois qu'il marche de deux façons, Kierkegaard. Parce que toute la journée, c'est un drôle de bonhomme au XIXe siècle, à Copenhague, il ne cesse d'arpenter les rues de cette ville qui est suffisamment grande pour qu'on marche toute une journée, mais suffisamment petite, finalement, pour qu'on en fasse aussi le tour sans se perdre. Et la nuit, il écrit. Et finalement, il veut se montrer toute la journée pour qu'on croie qu'il ne fait rien, et il garde sa vie secrète d'écrivain la nuit. Et il me semble que finalement, les deux activités sont une seule et même façon d'avancer. Quand il est assis à son bureau avec ses feuilles, il continue à marcher d'une certaine façon, mais il marche dans les récits, il marche dans la pensée. Il n'y a pas une seule façon humaine de marcher. Il me semble qu'il faut penser la marche physique en lien avec la marche psychique.
Alors Kierkegaard qui nous dit aussi « Tant que l'on marche, tout marche bien », Julia Zimmerlich. J'aimerais qu'on revienne, qu'on s'attarde sur quelques effets de la marche mesurée sur le corps. La marche réduirait le risque d'infarctus ?
Oui, la marche, c'est ce qui est formidable avec cette activité sportive, enfin physique, c'est que c'est une activité qui est très douce, qui est très complète pour le corps. Donc en fait, ça va permettre de renforcer nos capacités musculaires, nos capacités respiratoires, et donc réduire les risques d'infarctus. Ça va fortifier nos os. On s'est rendu compte que chez les femmes ménopausées, il y avait vraiment une diminution du risque de chute, et donc de risque de fracture du fémur, qui sont des fractures très courantes. Il y a aussi une meilleure oxygénation, et donc ça permet aussi de renforcer notre système immunitaire. Et donc une diminution des risques d'accidents cardiovasculaires. Donc c'est une activité très complète.
Docteur Christophe André.
Oui, c'est spectaculaire, effectivement, sur les risques de fracture. Ça augmente la densité osseuse. Il y a des sports qui ne vont pas augmenter la densité osseuse, comme la natation ou le vélo, et la marche, effectivement, parce qu'on pèse à chaque pas. Donc c'est quelque chose qui paraît magique, mais qui ne l'est pas, au fond. Ça augmente la masse musculaire, ça diminue la tension artérielle, ça facilite l'absorption du glucose par les cellules. Donc qu'on marche avant les repas ou après les repas, c'est à chaque fois du bénéf, c'est fantastique.
Jacques-Alain Lachan, vous confirmez tous ces bienfaits, notamment sur le diabète de type 2.
Également sur le diabète de type 2. Mais tout le monde, pour qu'on y reste, ce qu'on disait, tout le monde n'a pas la même disposition pour marcher. Hein. Et nos contemporains sont en train de se sédentariser en ce moment à très grande vitesse, à trop grande vitesse, en raison d'une utilisation effrénée et aliénée des outils de l'image.
Christophe André, il ne faut pas culpabiliser ceux qui ne peuvent pas marcher.
Et oui, parce que c'est
de multiples raisons.
Bien sûr, c'est vrai que quand on parle des bienfaits de la marche, mais il y a des gens qui nous écoutent, qui sont paralysés, qui sont handicapés, qui ne peuvent pas marcher. Alors c'est important de leur rappeler qu'il y a des tas d'autres façons aussi d'aller bien. On peut aller bien en modifiant son alimentation, en faisant des exercices en piscine, avec des kinés, en méditant, cultivant les émotions positives. Donc la marche fait partie des mille et une choses que nous pouvons faire pour prendre soin de nous.
Le plus important, c'est de trouver son rythme, de marcher régulièrement. N'essayez surtout pas d'imiter les autres. Vous attaquez bien le sol avec votre talon, vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe.
On marche, quoi.
Hein ?
Oui.
L'idéal, c'est de respirer par le nez, hein, et de synchroniser votre respiration sur vos pas. Et si vous voulez augmenter votre vitesse, eh ben vous n'avez qu'à allonger le pas. D'accord, Mathieu ? Au fond, on peut dire que la marche à pied n'est qu'une succession de chutes rattrapées et de déséquilibres compensés.
«
Jacques-Alain Lachon, je rappelle que vous êtes ostéopathe. Il faut attaquer le sol avec le talon, dérouler avec le pied, pousser avec la pointe, selon Benoît Poelvoorde dans Les Randonneurs en 1997, le film de Philippe Harel.
Surtout pas, surtout pas. La marche telle qu'elle a été décrite de façon biomécanique depuis un siècle et demi est une marche qui n'est pas consciente, qui est trop traumatique, souvent pour les talons, pour les pieds, et qui est source de vibrations traumatiques au niveau des genoux, des hanches et du rachis. Donc ce type de marche pose problème.
Alors bien marcher, ça s'apprend. Quelles sont les erreurs les plus fréquemment commises, les principaux défauts acquis dès l'enfance ?
Marcher avec la tête, les yeux rivés au sol, une absence de mobilité des bras et des mains.
Le regard aussi.
Le regard, bien sûr, tête basse, donc le regard allant vers le sol. Porter un sac sur une seule épaule, par exemple. Effectivement, talonner à outrance en marchant. Et puis, avoir aussi une absence de soutien du périnée et de la sphère abdominale basse.
Rappelez ce qu'est le périnée.
Le périnée, c'est toute la zone musculaire qui soutient le bassin et les organes génitaux.
Alors, le principal défaut, c'est une marche qui ne porte pas le corps.
C'est
quoi d'ailleurs une marche portante que vous défendez dans vos ouvrages ?
Une marche portante, c'est une marche qui est légère, qui procède par propulsivité du pied, et qui renvoie un mouvement qui est beau, et surtout une grande légèreté du mouvement. Hein. Donc, esthétiquement, c'est une marche qui est éminemment gracieuse, et qui procède par un développement de la présence à soi-même.
La marche portante, c'est une marche qui permet donc d'acquérir plus de swing.
Oui, alors ce qu'il faut entendre, c'est aussi que certaines personnes n'aiment pas se marcher parce qu'elles ont la sensation de peser, en gros, trop par rapport à leur poids. Bon, les gens qui souffrent d'arthrose rechignent évidemment à se déplacer. Donc, il y a toute une somme de personnes pour lesquelles la motricité, cette motricité, pose un problème. Et leur faire sentir, à travers la marche portante, une grande légèreté de leur motricité, c'est pour eux la découverte du Graal. Bon.
Alors, à l'inverse de la marche portante, la marche pathogène, c'est une marche qui accentue les pressions et compressions articulaires et musculaires.
C'est une marche que j'appelle très très chargée. Ouais. C'est-à-dire c'est une marche comme si on avait au fond deux valises ou trop de poids ou deux packs d'eau très très lourds au bout des bras. Hein. Et ce qui peut renforcer une marche, je dirais aussi pathogène, c'est la sédentarisation par les stations assises prolongées, trop prolongées, 8 heures et plus sans interruption, tel qu'on peut l'observer chez les gens qui travaillent aujourd'hui.
Quelles sont les conséquences d'une mauvaise marche d'un point de vue physique et psychique ?
Les conséquences d'une mauvaise marche, arthrose de hanche, arthrose de genou, aponévrosite plantaire, aggravation des hallux valgus.
Hallux valgus, c'est...
C'est une déformation...
C'est ce qu'on appelle le pied d'oignon, vulgairement.
C'est le seul oignon, en gros, du pied. C'est des pathologies vertébrales, type de hernie discale. Mais au fond, la marche n'est que l'illustration d'une motricité ordinaire. Comme s'asseoir, comme se pencher, se relever.
Est-ce qu'on peut modifier ces mauvaises habitudes à tout âge ?
Il n'y a pas d'âge pour modifier. Pour peu qu'on découvre le bénéfice. Et en fait, les patients aiment bien se prendre en charge et rester autonomes de soins, d'ostéopathie, de kinésithérapie, etc.
Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de marcher par peur des chutes.
Oui. Alors on appelle chuteurs, en fait, les gens qui, à partir de 65 ans, d'après l'INSERM, chutent, tombent deux fois par an. Une chute peut créer ce qu'on appelle un syndrome de stress post-chute, qui est tel que le stress est tellement présent qu'il aggrave le mécanisme d'instabilité et de risque de chute. Donc, il est très important pour les chuteurs d'être aidés et guidés pour se sécuriser dans une marche comme la marche portante.
Deux, trois conseils de base pour ceux qui vont marcher cet après-midi. Voilà, deux, trois conseils fondamentaux quand on veut se mettre à marcher. Ou quand on marche déjà et qu'on a une mauvaise posture, une mauvaise manière de se porter.
Choisir le bon chaussage, faire des assouplissements, et marcher, pourquoi pas à plusieurs, mais se taire.
Et il faut donc la posture du corps, quelques conseils de base.
Oui, la posture du corps, surtout placer les mains dans l'espace, les rendre présentes, les mains. avoir une marche propulsante avec le pied qui se trouve en arrière pour avancer plus légèrement et lever le regard, surtout éviter d'avoir le regard plongeant et avoir un soutien, de recruter le tonus abdominal.
Et donc périnéal. Si on se sent léger et propulsé, c'est déjà un bon indice.
Ah, c'est fantastique.
Ouais. Roger Polnareff, il marchait comment, Emmanuel Kant, lui qui faisait sa marche quotidienne, toujours à la même heure dans sa bonne ville de Königsberg à 19h.
Il disait qu'il fallait pas respirer par le nez. Il avait fini par marcher au bout d'un moment seul alors qu'il se faisait accompagner parce qu'il ne voulait plus parler. Et il faisait, la légende veut que les gens de la ville aient réglé leur montre sur le passage de Kant et que même le responsable du beffroi ait réglé l'horloge et que ça, il était comme ça très, très régulier. Mais il y a un point sur lequel, très vite, je voudrais peut-être revenir pour compléter ce que vous avez dit et qui est très important. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est le rapport entre finalement la petitesse des pas, l'humilité, l'endurance et la puissance de la marche, qui est un effet effectivement physique, mais aussi, je crois, mental et psychique. Chacun de nos pas est minuscule, entre 30 et 80 cm, sans doute suivant la taille. Et pourtant, en faisant quelques centaines, a fortiori quelques milliers, eh bien, on se déplace, on dit « Ah, j'ai été jusque-là ». On finit par voir le paysage changer, on finit par voyager, l'humanité elle-même a fini par conquérir la planète. Il y a quelque chose, si vous voulez, entre la toute petitesse des moyens et puis l'ampleur des résultats à travers l'endurance, qui est quelque chose de très important, je crois, à souligner.
Bonjour Isabelle, vous appelez de Vège. Bonjour, c'est où Vège?
Vège, c'est en Mayenne.
C'est en Mayenne. Alors vous êtes restauratrice de meubles anciens, c'est ça? Et vous pratiquez la marche 2 km par jour, c'est ça à peu près?
Voilà, environ une demi-heure par jour tous les matins, juste avant d'aller à l'atelier. Et j'ai la chance d'habiter en pleine brousse, donc je peux marcher 2 km.
Loin de la pollution.
Loin de la pollution, avec mes deux compagnons. Et au bout du chemin, j'ai un étang sur lequel je prends je fais un petit paddle. C'est comme si je marchais sur l'eau. Mmh. Donc j'ai double marche, vous voyez, air sur l'eau. Et
Isabelle, je suis obligé d'interrompre notre conversation, hélas, parce que la liaison est beaucoup trop mauvaise. Merci en tout cas de nous avoir appelé. Pour terminer, une question philosophique. Roger Polnareff, Jacques-Alain Lachant, Christophe André, Julia Zimmerlich. Qu'adviendrait-il si l'humanité arrêtait de marcher, Roger Polnareff?
Si elle arrêtait complètement, je crois qu'elle arrêterait d'être humaine. C'est aussi simple et net que cela. Alors, l'intérêt que nous portons aujourd'hui à la marche, il est à la fois très positif. Il est d'une certaine manière, d'un autre aspect un peu inquiétant. Parce que, si vous voulez, aucune autre société de gens marchands ne s'en préoccupait. Ils marchaient. Voilà.
Christophe André.
Oui, d'abord on commencerait par aller très mal, être beaucoup plus malade, beaucoup moins créatif, beaucoup moins heureux, et donc l'extinction serait au bout du chemin.
Jacques-Alain Lachant, très vite.
Eh bien, moins marcher ou plus marcher, c'est la disparition du corps, c'est la disparition du lien social et empathique.
Julia Zimmerlich.
Ce qui est très rassurant quand même, c'est que les villes s'intéressent à ce sujet et qu'elles réfléchissent justement à la marchabilité des villes. Elles essayent de nous faire remarcher.
Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci beaucoup Roger Polnareff. Comment marchent les philosophes est publié chez Paulsen. Merci Jacques-Alain Lachant. La marche qui soigne et bien marcher, ça s'apprend chez le même éditeur, chez Payot. Merci Julie Zimmerlich. Merci à tous nos invités. Vous pouvez retrouver toutes les informations et toute la bibliographie sur le site de Grand Bien Vous Fasse. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de France Inter. My name, the color fixture.
My name in the corner, fixture.